Amédée Achard, Le Nouveau Paris, 1841. Les quartiers neufs qui s'élèvent à la voix des architectes comme des palais magiques sous la baguette d'un enchanteur donnent aux rues que protège Sainte-Marie de Lorette une physionomie étrange et pleine d'originalité. Ces rues sont si pressées de vivre que beaucoup ne se donnent pas le temps de grandir avec mesure. Elles font comme une troupe d'enfants éparpillés dans un jardin. Elles empiètent les unes sur les autres et se volent quelques toises de terrain à la sourdine aux dépens de la régularité. Quoique toutes jeunes encore et à peine nées d'hier, plusieurs tortillent et rampent en serpentant comme leur vieille grand-mère d'outre-Seine. Les unes, blanches comme des catéchumènes, étalent tout un côté de maisons qui ouvrent toutes grandes leurs fenêtres au ciel, fort étonnées de ne point voir de vis-à-vis. D'autres échelonnent les leurs comme des sentinelles. Dentelées de pierre en saillie, leurs files en balcons dorés attendent que des voisines viennent nouer leur existence à la leur par les liens du ciment et du moellon. Ce n'est plus la ville et ce n'est pas encore la campagne. Derrière ce charmant square où une fraîche fontaine pleure entre quatre hôtels qui ressemblent à des villas italiennes, les rues prennent un aspect solitaire et muet. Les voitures y sont rares, les chiens dépaysés rôdent en flairant la terre. De grands chantiers ornent leur solitude peuplée d'escadrons de pierres brutes, de bastions, de soliveaux, de citadelles, de bûches, de pyramides, de briques. Le rideau frissonnant des arbres voile de profonds jardins où l'herbe épaisse et verte pousse comme au champ. Ça et là, les trottoirs disparaissent subitement et le bitume municipal fait place au gazon idylléen. Le ruisseau civilisé, entretenu aux dépens de la caisse publique, s'efface devant l'ornière primitive qui circule de travers et en est à la discrétion des charrettes. Des prairies se prolongent de droite et de gauche sur une étendue de 20 ou 30 mètres, fermée de cloisons vermoulues. Parfois, l'œil du pérégrinateur, égaré dans ces contrées hyperboréennes, y découvre un âne dormant à l'ombre d'un hêtre, après avoir tondu plusieurs fois la largeur de sa langue de luzerne parisienne. Un titir du deuxième arrondissement fume dans un fossé en regardant passer les mélibés qui rentrent par la barrière blanche en fraudant l'octroi. À l'horizon, les moulins de Montmartre, ces éternels moulins qui vivaient déjà du temps de Clovis et qui vivront encore quand Paris ne sera plus, tournent au sommet de la colline avec une solennelle gravité. Le palais Botterel, avec ses cuisines qui feraient vivre le royaume de Monaco, se prélasse au milieu de ses arbres et de ses pelouses comme un jeune pacha après dîner. Il se chauffe au soleil et laisse reposer ses fourneaux, ses cheminées, ses chaudières, jusqu'au jour où il plaira à la spéculation, cette fée du XIXe siècle, de les démolir ou de les rallumer. Partout dans les rues adjacentes s'élèvent des maisons qui affectent toutes les formes architecturales. C'est tantôt une villa Renaissance où la pierre curieusement fouillée ondule en arabesque, se ploie en feston capricieux, se courbe sous le ciseau intelligent qui la pétrit et la fait s'épanouir en fleurs, grimacer en figurines ou s'arrondir en colonnettes frêles et dentelées. Plus loin, l'ogive entr'ouvre son arc élancé vers la porte étroite. Le trèfle couronne les croisées, des gargouilles rampent à l'angle des toits. Les rayons soyeux du soleil s'éparpillent en jets de flammes sur les vitraux coloriés. Et dans de petites niches, de bienheureux saints de pierre semblent prier en attendant le ciel. Un jardin où le lilas fleuri sépare la maison gothique du péristyle grec, un œil de bœuf régence regarde curieusement entre deux colonnes corinthiennes. C'est un congrès de pierres qui représente tous les ordres et tous les systèmes. La nouvelle Athènes est certainement l'endroit du monde où il se consomme le plus de moellons et de briques. Elle sape ses environs pour y trouver du plâtre et de la chaux. Montmartre y passera tout entier. Les rues de ce quartier-là parcourent toute l'échelle de la croissance. Les unes, en petit nombre, ont atteint l'âge mûr. Plusieurs sont à peine adultes, beaucoup sont encore en enfance. Il en est deux qui sont au berceau. Elles ont, il est vrai, reçu le baptême municipal, mais elles n'existent pas. L'une est la rue Bourseau, qui se compose d'une maison et d'une enseigne. Le reste de la rue est occupé par de vieux arbres abattus, des landes incultes et des marécages où fleurissent en paix d'aimables colonies de rainettes. L'autre rue a le doux nom de Léonie. Le voyage à la recherche du passage du Nord-Ouest est un jeu d'enfant auprès du voyage à la recherche de la rue Léonie. Cependant, ceux qui ont fait une étude approfondie de ces régions placent communément la rue Léonie entre la rue Chaptal, qui n'est pas finie, et la rue Bourseau, qui n'est pas commencée. Elle est représentée sur le plan de Paris par un champ de légumes. À 7 heures du soir, on dirait une ville morte. Le silence s'abat entre la barrière blanche et la place Saint-Georges. Le roulement des omnibus trouble seul le silence. Et cependant, jamais population ne fut ni aussi active ni aussi bruyante que celle qui demeure dans les pays translorétaniens. Elle se couche tard et se réveille bien plus tard encore. Elle voit se lever la lune, mais jamais le soleil. Elle chante, jase, écrit, peint et cherche le plus qu'elle peut à embellir le court espace de la vie. Et bien maintenant que nous avons esquissé la physiologie du quartier, il nous reste à tracer celle de ses habitants. Après les rues, la population, l'homme après la pierre. Il peut se faire un jour qu'il y ait dizaines de moellons à Paris et la brique pourra faire défaut, mais le locataire jamais. Quelle que soit l'activité des maçons qui taillent, équarrissent, font des bâtisses, comme si leur truelle avait les privilèges de la lyre d'Amphion, ils ne peuvent arriver à satisfaire l'ardeur inquiète des émigrants qui remontent la rue Laffitte et secouent, sous le péristyle de Notre-Dame de Lorette, la poussière du boulevard. Tandis que les maisons grimpent au ciel de toute la hauteur de leurs 6 étages, dans l'espace de temps que met un vaudeville à naître, depuis le premier calembour jusqu'au dernier couplet, lorsque des échafaudages se dressent encore contre la façade, déjà depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux mansardes, l'impatiente population s'installe de force sous les toits humides et conquis. Des escadrons babillards de jolies femmes, modistes, figurantes, coryphées, actrices, prennent possession de la maison enlevée d'assaut. Quelques célibataires s'emparent au hasard des appartements abandonnés au milieu du pillage. Et bientôt, d'étage en étage, flottent des rideaux multicolores qui laissent entrevoir les têtes souriantes de Rosine aux blanches mains et qui ne veulent pas la mort des chérubins barbus de la civilisation parisienne. À midi, les jalousies glissent sur leurs cordons soyeux. Les persiennes creusent leurs prudentes rainures. Les stores tombent sur les balcons et toutes ces charmantes pécheresses apparaissent entre les fleurs de leur jardin suspendu. Alors, 1 000 conversations hiéroglyphiques, 1 000 confidences où le télégraphe est admirablement plagié par le geste, le regard, la pose, le sourire, s'échangent d'étage en étage, de balcon à balcon, de rue à rue et des trottoirs aux entresols. Le vent emporte les mystères de la nuit et les éparpille çà et là. Ils volent de fenêtres en fenêtres et de chute en chute, tous finissent par tomber dans la loge du portier où ils éclatent. Oh, je ne sais pas de plus grand indiscret que le vent. Beaucoup de maisons de la Nouvelle-Athènes, hautes comme des auberges, larges comme des hôtels, servent de caravansérails aux tribus nomades qui vivent à la surface de Paris et lui donnent sa pâture quotidienne de plaisir, de nouvelles et d'excentricité. Si les nymphes de Calypso abondent au nord de la Vierge de Lorette, les artistes non plus n'y manquent pas. Tandis que du rez-de-chaussée, un billet doux prend la fuite sur les brodequins d'une femme de chambre, un feuilleton vient au monde à l'entresol. La naissance d'un chapitre est célébrée au troisième par la fumée d'une pipe turque qui tournoie vers le ciel en spirale bleue comme les parfums du sacrifice. Une poésie intime s'envole des mansardes et, si vous prêtez bien l'oreille, peut-être entendrez-vous bruire les notes perlées d'une barcarolle inédite, chantée au premier par une blonde élève du conservatoire. Ne vous arrêtez pas à considérer l'équipage splendide qui stationne à la porte. C'est le coupé d'un prince russe qui protège les arts et témoigne le plus vif intérêt à la prima donna anonyme qui, tout en chantant sur la clé dute, a trouvé celle de son cœur. À l'ombre d'un pot de giroflée, des pasteurs corridons en robe de chambre jouent sur le cornet à piston des contredanses de musard. Les Galatées, en peignoir, fuient sur leur balcon et, bien qu'elle n'ait pas lu Virgile, elle n'oublie jamais de retourner la tête en se cachant à demi sous les molles ondulations de leurs rideaux de soie. Qui le pourrait croire? C'est au quartier de Notre-Dame de Lorette que fleurit l'églogue qu'on croyait morte depuis Monsieur de Florian. Daphnis et Chloé, Myrtille et Phyllis vivent encore entre le cap en démolition de la rue des Martyrs et le promontoire de la rue Fontaine-Saint-Georges. Ils errent depuis les trois vierges de pierre de l'église jusqu'aux frais ombrages de Tivoli. Celles-ci sont rats à l'Académie royale de musique. Ceux-là sont peintres aux vaudevillistes. Mais au lieu de pommes et de lait caillé, ils mangent volontiers des salmis de bécasse arrosés de vin de Bordeaux. Au crépuscule, quand les dernières flammes de Phébus s'éteignent aux angles rouges des toits, vient l'heure de l'émigration. Les papillons des rues circonvoisines quittent leur divan parfumé. Ils secouent leurs écharpes brillantes et veloutées comme des ailes et prennent leur vol vers la ligne des boulevards, cet équateur de la civilisation où le soleil de la mode fait éclore tant de resplendissantes merveilles. Un dernier coup de pinceau tombe sur la toile barbouillée, un coup de crayon sur le dessin esquissé, le feuilleton meurt à sa dernière colonne, le vaudeville rentre dans le tiroir à l'état d'embryon, l'ode ploie ses strophes, le billet doux se cachette sous l'enveloppe satinée, et la population s'épanouit au soleil. Où va-t-elle? Partout où il y a quelque plaisir à espérer, du bruit et de la foule. Puis elle remonte par couple solitaire aux heures mystérieuses qui sonnent après minuit. Alors la plus charitable hospitalité s'exerce de toutes parts. Et la rue de Bréda ouvre ses portes à la rue de Navarin, la rue La Rochefoucauld prête à l'asile temporaire à la rue Pigalle, et tout devient silence et ténèbres.